On a vu le mariage d'Isaac et de Rebecca, et ce matin on a la suite. Alors c'était une rencontre fascinante, Genèse chapitre 24, un mariage guidé, une rencontre guidée par Dieu, claire, merveilleusement. Et alors, mais qu'est-ce que vont devenir maintenant ce couple Isaac-Rebecca? Comment va se manifester la bénédiction d'Abraham dans leur vie? Voilà une bonne question. Hein. Vous savez, quand on a fait les comptes, quand on est enfant, peut-être maintenant ça a changé, il y avait cette phrase, et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Et on va voir que pour eux, ce matin, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc... ne soyons pas surpris que notre bénédiction en Jésus-Christ ne nous saute pas aux yeux comme on le souhaiterait. Le titre du message de ce matin, donc pour ces deux chapitres, la bénédiction de Dieu traverse nos difficultés. La bénédiction de Dieu traverse nos difficultés. Je commence la lecture, Genèse chapitre 25. Versets 1 à 18. Là, il n'y a pas d'intervention pour le moment des lecteurs. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Elle lui enfanta Zimra, Joscam, Médan, Médian, Jisbak et Chouak. Joscham engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, et les Shushim et les Léumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Keturah. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar le Hessien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de l'Akaï-Roï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nabajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Edbil, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parcs et leurs enclos, ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Alors ce texte fait la fin du pèlerinage d'Abraham en Canaan. Et avant de nous quitter, Abraham a encore quelque chose à nous enseigner. Il est crédible, je pense, avec cette longue vie. J'ai noté une priorité pour lui à la vie. Abraham est âgé, hein. On pourrait dire qu'il a rempli son contrat, il a fait tout ce qu'il devait faire dans sa vie, mais il ne laisse pas son regard se porter en arrière, vers sa vie bien remplie. Il n'a pas le projet de partir sur la pointe des pieds. Non. Il se remarie et élève 6 autres enfants. Formidable. Est-ce là le secret de sa longévité? 175 ans. 35 ans de vie active après le mariage d'Isaac. Alors, recevons son conseil ce matin. Priorité à la vie. Ne vivons pas dans le passé. Vivons tout simplement pour la gloire de Dieu. Ne pas perdre de vue le plan de Dieu. Jusqu'à la fin, Abraham est l'ami de Dieu, qui collabore au dessein de son Dieu. Et donc, c'est la troisième fois qu'on voit que Abraham prend les choses en main pour que le projet de Dieu s'accomplisse. Et ici, il éloigne tous ses enfants de Isaac, qui sera son seul héritier, conformément au plan de Dieu et aussi au désir de Sarah. Est-ce que Dieu a besoin de lui? Non. Mais il manifeste ainsi son attachement, son appropriation du plan de Dieu. Et je crois qu'en cela, on peut l'imiter. Ne soyons pas des spectateurs du plan de Dieu pour nos vies et pour le monde. Ne soyons pas des figurants, mais prenons-y une place d'acteur dans ce plan de Dieu. C'est là notre appel, c'est là notre vocation à nous aussi, sachant que nous savons et nous le savons que Dieu conduira toutes choses à bonne fin. Que va devenir la bénédiction d'Abraham? Dieu bénit Isaac à la fin de notre passage. Mais quelle est la valeur de cette bénédiction? Car on voit aussi que Ismaël a été béni par Dieu, 12 fils. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham quand Agar et Ismaël avaient dû quitter le clan. Dieu avait fait cette promesse qu'il prendrait soin d'Ismaël et il aurait une postérité de 12 princes de son peuple. Et Isaac, le fils béni, lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, on va lire la suite de notre texte maintenant. Et là, il y a quelques interactions. Donc, je vais faire la narration et je laisserai, si vous avez les passages soulignés. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel l'Araméen de Padam Aram et sœur de Laban l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit «
Si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?»
Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit
« Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront pour sortir de tes entrailles. » Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Ésaü était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et dit, Ésaü dit à Jacob,
laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom.
Et Jacob dit,
vends-toi aujourd'hui ton droit d'aînesse.
Ésaü répondit,
voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse?
Jure-le-moi d'abord.
Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea, but, puis se leva et s'en alla, et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voici une bénédiction bien mal engagée, une bénédiction bien mal engagée. Isaac et Rebecca, un couple stérile, qui se trouve dans les mêmes circonstances qu'Abraham et Saraï à l'époque. Mais avec un avantage, Isaac connaît les conditions de sa naissance. Il sait ce qui s'est passé avec Abraham et Saraï, ses parents. Alors, pendant 20 ans, Isaac et Rebecca vont faire la seule chose qu'il y avait à faire, prier pour avoir un enfant. Ils n'ont pas bricolé quelque chose, ils n'ont pas cherché à faire un passage en force, à forcer la main de Dieu. Ils ont simplement demandé à Dieu l'enfant de la postérité promise. Et Isaac ici est en première ligne pour l'intercession et Dieu a exaucé sa prière. Et c'est un exemple pour nous. Peut-être quand on est jeune marié, on se marie puis on a plein de projets pour la vie et voilà, des choses qu'on va faire. Et puis les années passent, le temps passe et les projets prennent du retard. Et c'est pas comme on avait envisagé du tout que les choses se passent. La solution n'est pas dans la rébellion contre Dieu, mais dans l'intercession. Un exemple pour nous. Priez, demandez à Dieu. Isaac et Rebecca sont un couple en questionnement également. Ils avaient demandé un enfant et en voilà deux qui se disputent dans le ventre maternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur. Avez-vous déjà posé cette question à Dieu? Lui avez-vous déjà demandé pourquoi les choses se passent pas bien? Pourquoi le plan de Dieu semble déraillé dans ma vie? Ça semble prendre une direction qui n'est pas la bonne. Pourquoi? Dieu a donné une prophétie à Rebecca, mais il n'a pas donné d'explication. Or, bien sûr, Dieu savait exactement ce qu'il allait faire et accomplir avec les jumeaux qui étaient là. Et c'est la suite de notre texte. On va lire Genèse 25, 27 à 34. Pardon. On l'a lu ça. Pas le droit dans la lecture. Il me manque le passage où il méprise le droit d'aînesse. Excusez-moi. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors vous avez lu cette histoire très connue. Il revient affamé de sa partie de chasse. Et puis il arrive là, il doit sentir l'odeur d'un magnifique plat qui est en train de mijoter sur le feu. Et Jacob, lui, qui est malin, voit qu'il y a un bon coup à faire là. Et voilà qu'il achète le droit d'aînesse de son grand frère pour un plat de lentilles. Allez, combien ça vaut? 5 euros? 5 euros le droit d'aînesse. Dès Abel et plus tard, le premier-né des animaux était offert un sacrifice à l'Éternel. Dans la loi de Moïse, tous les premiers-nés mâles appartenaient à Dieu et devaient être rachetés à leur naissance. Jésus-Christ est le premier-né par excellence dans le Nouveau Testament. Il est le premier-né du Père. En Hébreux chapitre 1, verset 6, il est le premier-né de la création, hein, Colossiens 1, 15. Il est le premier-né des morts, en Apocalypse 1, 5. Le premier-né des ressuscités, il est en toute chose le premier, Colossiens 1, chapitre 18. Le premier-né a donc une valeur spirituelle particulière que Ésaü a estimée à 5 euros. Que Ésaü a estimé à 5 euros. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et quand Dieu donne une explication à la présence de ces deux jumeaux, il la donne 2000 ans plus tard, dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17, Ésaü est le type de profane, ceux qui estiment à 5 euros les valeurs spirituelles. Et en Romains chapitre 9, verset 11, les deux jumeaux, Ésaü et Jacob, illustrent la doctrine de l'élection. Dieu sait. On ne comprend pas tout ce qui nous arrive, comme Rebecca. On est surpris des difficultés, des conflits, des problèmes, et on ne voit pas quel sens ça peut avoir tout ça. Pourquoi Dieu ne fait pas que tout se passe bien? Pourquoi Dieu ne fait pas que tout se déroule sans accroc? Pourquoi toujours il y a des problèmes, des difficultés de partout? On n'a pas d'explication ici-bas, mais on peut avoir la certitude que Dieu a un plan, et un jour, à coup sûr, on comprendra pourquoi ces difficultés sont surgies. Et cela sera, je l'imagine, un sujet d'émerveillement et d'adoration, que la façon dont le pourquoi de Dieu avait posé ces difficultés dans notre vie. Le pourquoi de Rebecca a une explication. Et le temps passe, il n'y a pas toujours le temps de s'attarder sur les choses, les calendriers bousculent souvent, et on avance péniblement. Genèse chapitre 26, versets 1 à 12. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui avait eu lieu de temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit :
Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
Et Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, ils disaient :
Ma sœur.
Car il craignait, en disant « ma femme », que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit :
Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur?
Isaac répondit :
J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle.
Et Abimélec dit :
Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple l'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables.
Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple :
Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort.
Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et d'un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui porteraient-ils envie tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent, les remplirent de poussière, et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Un obstacle à la bénédiction ici, j'ai relevé. Oui, je m'arrêtais au verset 12 normalement. J'ai poursuivi la lecture, mais ça s'arrêtait au verset 12. Isaac sema dans ce pays, il recueilla cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et il y a comme un obstacle à la bénédiction juste avant. Une famine qui pourtant n'entame pas les promesses de Dieu. La famine survient et Isaac se rapproche des villes de la plaine et aussi de la route qui mène vers l'Égypte. Dieu lui parle à ce moment-là, lui laissant comme consigne de rester dans le pays de Canaan, en lui rappelant la promesse faite à son père Abraham. Ce qui est formidable au verset 5 par rapport à cette promesse, c'est que la promesse ne dépend pas de Isaac. La promesse dépend de l'obéissance qu'a eu Abraham dans le passé, et c'est quelque chose qui est acquis. Isaac, bien sûr, connaît bien cette promesse parce qu'il était là, sur le mont Morija, quand Dieu s'est engagé par serment. Je vais relire ce passage qui est en Genèse 22. Une des montagnes du livre de la Genèse. Après donc que l'Éternel ait retenu le bras obéissant d'Abraham, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et donc, Dieu rappelle ici la promesse de cette bénédiction à Isaac, et cette promesse est acquise, cette bénédiction est acquise à cause de l'obéissance d'Abraham, son père. Et donc Isaac reste à Guérar. Et vous avez vu, lorsque les gens du lieu lui posent question sur sa femme, vous avez entendu ce qu'il répond. L'histoire se répète. C'est ma femme, c'est ma sœur. Au lieu de dire que c'était son épouse. Abraham avait fait la même chose. Et il avait fait tellement la même chose que les textes nous disent qu'en arrivant en Canaan, il avait convenu de marcher avec sa femme partout où ils iraient. Voilà, dès qu'il rencontrerait des gens, eh ben, elle se ferait passer pour sa sœur. Alors imaginez la situation. C'est pas dit dans le texte. Dieu voulait donner une postérité à Abraham, et aux yeux de tout le monde, Abraham fait passer sa femme pour sa sœur. Que faire avec ça? C'est vrai que c'est pas dit comme ça, mais en quelque sorte, on peut dire que la stérilité de Sarah l'a bien protégée pendant toutes ces années. Et on peut imaginez qu'il ne devait y avoir aucune suspicion que le fils de la promesse puisse être un bâtard. Alors Abraham part, ce même Abimélec, c'est sans doute pas la même personne, c'est peut-être un titre, enfin en tout cas le même personnage, Abimélec avait confondu Abraham. Dieu l'avait prévenu et Abraham avait dû lui confesser sa faute. Oui, il avait fait passer sa femme pour sa sœur. Et là, Isaac nous fait un remake, hein. Et on voit que pour Isaac, comme pour Abraham, Sarah est tombée enceinte après qu'Abraham ait confessé sa faute. Et de la même manière, Isaac ici voit la bénédiction arriver après qu'il ait confessé sa faute. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année au centuple. La bénédiction est retrouvée et tout va bien pour Isaac. Cette famine va être l'occasion de la prospérité de Isaac, paradoxalement. Il sème et il récolte en abondance chez les Philistins. Lui qui est un éleveur, le voilà un agriculteur très doué et de quoi bien sûr faire des jaloux. Mais cette mise en garde est aussi pour nous. Nous aussi, nous avons une promesse qui ne repose pas sur nous-mêmes, mais qui repose sur l'obéissance de Jésus-Christ. Il n'empêche, s'il y a du péché dans notre vie, ne soyons pas surpris que cette bénédiction, ben, on ne la voit pas beaucoup se mettre en œuvre. On a un exemple ici qui est lourd de sens. Abraham, comme Isaac, craignait les hommes. Ils ont eu la crainte des hommes supérieure à la crainte de Dieu. Alors, c'est un problème qui peut toucher tous les hommes. Hein. Ne lui jetons pas la pierre. Ne lui jetons pas la pierre. On est capable de faire pareil. On est capable de faire pire. Quand Pierre écrit « Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières », je trouve que Pierre est très gentil. Il dit ça très gentiment. Une mise en garde. Je parle ici pour les hommes, mais dans un contexte bien particulier. Mais on peut voir ça seulement comme une illustration d'une vérité qui est là. Le péché bloque la bénédiction de Dieu, quand bien même cette bénédiction est assurée. Il y a une note positive, je trouve, que je voudrais souligner dans ce passage. C'est le fait que ce qui dénonce Isaac et Rebecca, c'est qu'ils les voient jouer ensemble. Alors, ils ont eu du mal à cacher leur relation et c'est tant mieux. Ça a été tant mieux pour eux. Je pense que Dieu fait un clin d'œil aux couples ce matin. Tous les couples que nous sommes. Hein. Rire, plaisanter pour une femme... son mari pour un homme et son épouse, rire, plaisanter, jouer dans l'intimité, c'est quelque chose qui est très bon à entretenir. Hein. Je pense que même personnellement, c'est le meilleur de la vie de couple qui se trouve là, dans la joie, dans la joie, les rires, les plaisanteries et les jeux qu'ont un homme et une femme dans leur intimité. C'est une parenthèse dans notre texte que je tenais à souligner pour nous. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, il faut aussi travailler. Et la suite du texte nous parle du travail laborieux de Isaac et de ses serviteurs. Genèse chapitre 26. On va reprendre à partir du verset 13 pour faire la liaison. Donc Genèse 26 du chapitre du verset 13 jusqu'à la fin. Donc Isaac devient riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu de bétail, des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui porteraient-ils envie? tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père. Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Il y a un Abimélec qui doit parler.
Va-t'en de chez nous, voilà. Car tu es beaucoup plus puissant que nous.
Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, j'ai pas souligné, ils disent, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Et il l'appela Réoboth, car dit-il,
l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays.
Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit,
je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur.
Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit,
pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous?
Et ils répondirent,
nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel.
Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hessien, Basmat, fille d'Élon, le Hessien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. La bénédiction de Dieu n'épargne pas les contrariétés. Alors la prospérité matérielle n'est pas le bonheur, on le sait. Il y a ce proverbe qu'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et pour Isaac, là, c'est raté, il a fait bien des jaloux. Et il doit quitter la région. On dirait aujourd'hui, il s'est fait torpiller son affaire, son business. Il doit partir. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas de promesses de prospérité matérielle. Et à plus forte raison, devons-nous pas nous y attacher? Isaac a dû se détacher de ce lieu-là où il faisait fortune. La prospérité matérielle n'est pas le bonheur. Je vois également dans ce texte un encouragement à la persévérance. On a, dans la suite de l'histoire, de tous ces puits, ce qu'on a bouché, ce qu'on a disputé, ce qui a été contesté, hein. Ça fait penser à Manon des Sources, hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'ouvrage de Marcel Pagnol ou lu le livre, mais là on comprend ce que c'est l'importance d'une source. Alors il y a certainement des métaphores à creuser avec les puits là. Je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le faire vous-même, réfléchir sur cette question de puits. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire avec ces histoires de puits? Moi j'ai noté la persévérance d'Isaac face à l'acharnement des Philistins. J'ai noté sa résilience. Hein, c'est un mot à la mode, on entend beaucoup parler de résilience. À la base, c'est propriété d'un métal, d'un matériau à résister au choc. Ça ne casse pas, ça se déforme et ça continue de fonctionner. Ça encaisse les coups. Et je note aussi que Isaac recherche la paix. Il ne cherche pas l'affrontement, il cherche la paix. Et enfin, il est récompensé. Dieu le met au large. Et plus personne ne lui cherche de difficultés. Un encouragement à la persévérance. Mais le verset 34 est là, avec une nouvelle contrariété. Avez-vous remarqué que des fois, quand on a la victoire dans un domaine de notre vie, ah, ça y est, la tempête est calmée, la mer est plate, un problème réglé, je vais pouvoir vivre tranquillement, enfin. Et voilà qu'un autre problème surgit ailleurs, dans un autre domaine. Et c'est ce qui est arrivé ici à Isaac et Rebecca. Par rapport au choix des épouses qu'ont fait Ésaü, leur fils, Isaac et Rebecca devront subir, hélas, bien des contrariétés et sans rien pouvoir y faire. Le texte dit « Cela fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. » Un sujet d'amertume pour le cœur. Déménager, aller dans un autre endroit n'y fera rien. La force et la bonne volonté des serviteurs qui ont creusé les puits n'y feront rien. Et peut-être connaissez-vous cela, des situations où, voilà, c'est pas comme on souhaiterait. Ça nous fait mal. Mais on n'y peut rien faire. Pourtant, la bénédiction de Dieu repose sur Isaac et sur Rebecca. Alors, je rassemble un petit peu là tout ce que j'ai noté. En conclusion, la bénédiction de Dieu traverse nos difficultés. Après la mort d'Abraham, Dieu a béni Isaac, son fils, en avons-nous lu. Dieu est fidèle à sa promesse pour nous bénir en Jésus-Christ, son fils. Et donc, un encouragement à être acteur des promesses de Dieu et non des figurants ou des spectateurs. La bénédiction de Dieu sur nos vies peut être semblée des fois bien engagée, bien mal engagée. Prions, acceptons de ne pas tout comprendre, Dieu sait. Nos privilèges spirituels sont d'un grand prix. Ne les bradons pas pour un plat de lentilles à 5 euros. Le péché est un obstacle à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Il sait se cacher au fond de nos cœurs, mais Dieu saura le mettre en évidence pour qu'on le confesse. Et la bénédiction de Dieu n'épargne pas les contrariétés. La prospérité matérielle n'est pas le bonheur, même pour Isaac. Soyons persévérants dans l'opposition, recherchons la paix, et certaines contrariétés seront insolubles. Et pourtant, la bénédiction de Dieu repose sur nous. Seigneur, merci pour cette tranche de vie que tu nous dévoiles. Merci parce qu'elle est là pour nous instruire, pour nous mettre en garde, pour nous encourager, pour nous exhorter à te rester fidèle, à te faire confiance. Quoi qu'il en coûte, tu as les situations en main et tu ne nous perdras jamais de vue. Merci Seigneur pour la façon dont tu as gardé Isaac et Rebecca, même à travers les bêtises qu'ils ont pu faire quand ils ont caché leur union. Et Seigneur, merci parce que tu sauras nous garder, nous aussi. Merci de ta grâce sur nos vies. Merci Seigneur, même si on comprend pas tout, on est encouragé et on a le droit de te faire confiance. On peut te demander les choses, on peut intercéder comme ils ont fait pour que tes promesses soient pleines et entières. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.